Alexandre Adler est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Alexandre, inutile de vous présenter évidemment sur cette antenne et je dirais d'entrée qu'on vous attend ce soir sur deux sujets. L'Ukraine et Israël. Sur l'Ukraine, est-ce que vous participez de l'idée que la Russie est en train de s'effondrer, de se disloquer, que quelque part c'est même porteur de danger, même si évidemment, pour beaucoup d'entre nous, toutes les sympathies vont au peuple ukrainien. On commence par l'Ukraine, parce qu'après, il y a Israël.
Bien sûr.
Mais je vous demanderai dans un deuxième temps, si vous êtes inquiet de cette brusque montée de ton, dans le ton, on hausse le ton. Ou est-ce que vous considérez que dans la démocratie israélienne qu'on connaît bien, on parle beaucoup, on parle très fort, on dit pas s'il te plaît, et ça correspond pas forcément à quelque chose qui devrait nous inquiéter autant, même si certains députés proposent de mettre aux arrêts, par exemple, Benny Gantz. On commence peut-être avec l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que on est en train d'assister à un spectacle qui nous aurait paru hallucinant en février dernier, donc il y a presque un an? La Russie est en train de s'effondrer.
Alors, bon, d'abord, la Russie ne s'effondrera jamais, à mon avis, parce que la Russie est une entité puissante. Même, on l'a vu, l'Union soviétique s'est en effet effondrée. Beaucoup de choses ont commencé à être remises en cause de manière fondamentale. Mais la Russie, alors bien entendu, je ne parle pas du prochain millénaire ou de tout ce qui peut se passer par la suite. Et d'ailleurs, des fusions d'États, des confédérations existent. Et j'observe par parenthèse, et ça c'est le génie, je ne suis pas un grand partisan d'Emmanuel Macron par construction, mais par contre j'observe qu'il a eu le cran d'aller en Russie face à un garçon qui est un peu fou, Vladimir Poutine, qui lui a parlé, il lui a dit en face qu'il allait donner, il a fait un soutien complet à l'Ukraine. Et finalement, il a vu à la fois la nécessité de trouver une solution politique à la fin de cet affrontement, mais aussi de prendre parti et de prendre parti à ses risques et périls, parce que on sait très bien qu'il y a des gens extrêmement violents et extrêmement fous en Russie. Et moi, personnellement, je suis jamais tout à fait content quand je suis à Moscou, quand je suis très heureux de rencontrer des tas de mes amis que j'ai là-bas qui me sont très chers, mais quand j'ai quitté la Russie, quand je vois l'avion qui vrombit et qu'on va quitter la Russie, j'ai un moment de soulagement. J'ai jamais eu ça en Chine, par exemple. Bon, alors, pardon, je laisse cette parenthèse personnelle qui n'a pas un immense intérêt pour dire que ce que nous avons vécu et que nous vivons encore, ce n'est pas un effondrement de la Russie, et ça va être la défaite effectivement du camp russe face au camp ukrainien, ça je le pense, mais d'abord et avant tout, c'est l'issue qui se dessine de ce qu'a été une guerre de sécession russe. Alors, le mot est lâché.
Vous êtes le seul, hein.
Mais l'Amérique a connu une guerre civile terrible, pour abolir l'esclavage, entre autres d'ailleurs, ce n'était pas la seule chose, mais aussi pour resserrer les liens entre les parties de l'Union et faire l'unité d'un État qui devait devenir un continent. À ce moment-là, il n'est pas encore. Eh bien, cette épreuve terrible, la guerre de sécession, dont les films américains nous parlent encore, et qui fait partie maintenant même de notre imaginaire, il a eu lieu en Russie. Et alors là, par une espèce de renversement géométrique, topologique, qui est curieux mais tout à fait compréhensible, en fait, c'est le nord industriel aux États-Unis qui l'a emporté sur le sud de la rente, de l'esclavage, de la grande propriété et une sorte de féodalisme local. Eh bien, il se trouve qu'en Russie, la partie industrielle du pays, c'est le sud. Parce que c'est là sont les ressources minières, les matières premières, mais aussi l'industrie qui a commencé très tôt après la guerre de Crimée et qui, avec quelques points locaux, locaux à Moscou ou à Pétersbourg est quand même d'abord et avant tout le sud du pays. Dnipropetrovsk, le Donbass, Kharkov, toutes ces régions qui nous sont maintenant très familières et qu'on parle en petit nègre ukrainien, ce qui me met hors de moi, enfin ça n'a aucune importance. Là encore, ben c'est ces régions du sud qui sont c'est le sud industriel. Donc aux États-Unis, c'est le nord industriel qui a gagné, et en Russie, c'est maintenant le sud industriel et démocratique, comme le nord l'était déjà face au sud. C'est-à-dire que, effectivement, quand on voit la société que l'indépendance de l'Ukraine a permis de faire en quelques années, et en fusionnant les régions autrefois polonaises, comme Lvov et l'ouest du pays, et les régions qui ont toujours été russes et qui étaient encore très très profondément divisées par leur histoire, eh bien une nouvelle nation est née, une nation dans laquelle les gens étaient soignés. C'est quelque chose que je vois avec tout ce que racontent les familles maintenant, qu'elles n'ont pas pu prendre leurs médicaments, etc. Mais il n'y avait pas de médicaments en Union soviétique. Et là, il y a des médicaments, il y a des soins, il y a, je vois, des gens qui étaient traités pour leur diabète très correctement à l'européenne. Nous avons une société européenne et dans laquelle, d'ailleurs, les gens allaient et venaient puisque les frontières étaient ouvertes. Et on l'a vu. Donc, aujourd'hui, l'Ukraine a une avance sur la Russie qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Et c'est cette avance qui se traduit sur le plan politique. Le courage des Ukrainiens, c'est le courage aussi des Anglais, société démocratique et industrielle, face à une Allemagne qui était également industrielle, mais certainement pas démocratique, et qui s'est cassé les dents dans la bataille d'Angleterre. Eh bien, la bataille d'Angleterre, deuxième métaphore, et aussi la guerre de sécession, nous l'avons vu là maintenant, et c'est la fin de Poutine. C'est évident que Poutine ne se survivra pas, et c'est en fait le seul qui ne survivra pas à cette situation.
Tous les autres vont survivre.
Mais bien entendu. D'abord, beaucoup d'Ukrainiens, galvanisés par leur succès, vont revenir.
Ouais.
Ils vont revenir parce qu'ils étaient partis là où on a envoyé les familles ou tout cela, mais ils vont revenir parce que ce pays a des potentialités extraordinaires, notamment sur le plan agricole. Et on voit bien comme nous avons besoin du blé ukrainien. Que d'autre part l'Europe, bien sûr, même si elle faisait des histoires pour intégrer l'Ukraine parce qu'on voyait tous les problèmes géopolitiques, va le faire dans la foulée. C'est-à-dire qu'on fera des gestes qui vont rapprocher très fortement les Ukrainiens des Polonais et des Roumains, qui sont leurs alliés naturels, et des Bulgares, qui eux sont tous dans l'Union européenne. Et donc nous allons avoir un début d'élargissement. Et la suite de l'élargissement, c'est bien entendu que la Russie du Nord, mais débarrassée de ses idées hégémoniques, va mettre aussi son poids dans la balance pour créer un équilibre entre l'Amérique d'un côté et l'Europe de l'autre. Et sans la Russie, nous n'avons pas cet équilibre. Ajoutons que les gens qui sont en train de gagner en Russie même contre Poutine
sont pas très sympathiques.
Mais si, mais non, ils sont
sympathiques. Ah bon ? Je croyais que c'était les Wagner qui étaient en train de gagner. J'ai entendu dire ça, il va y avoir un coup d'État, c'est Wagner qui va prendre le pouvoir.
Mais non, ça c'est des gangsters que Poutine a créés. Malheureusement, pardonnez-moi de le rappeler à nos auditeurs parce qu'on l'oublie, sur le modèle de ce que les Américains ont fait en embauchant des mercenaires la chute du mur ici ou là, et les Russes évidemment sont allés à fond là-dedans avec leurs délinquants. Mais ils ont fait ça, oui, c'est vrai, mais les Wagner, ils sont maintenant en Ukraine, c'est un peu plus dur que de massacrer des pauvres Africains, et ça va être de plus en plus dur pour eux. Et par contre, Shoigu, qui est en train aujourd'hui d'être le grand patron de toutes les forces armées, et qui a survécu à l'arrestation, car il a été arrêté quelque temps, là, dans la période d'imbroglio, eh bien, lui, c'est un Mongol, et un Mongol qui est évidemment européen parce qu'il craint les Chinois. Et en tant qu'adversaire des Chinois, un homme comme Shoigu n'a qu'une idée, c'est qu'il faut que la Russie, y compris sa Sibérie à lui, y compris la Mongolie, soit garantie par l'Europe pour que les Chinois n'y mettent pas les pieds. Alors, je vais vous le dire parce que c'est grâce à mes amis Là aussi, c'est encore un phénomène extraordinaire. Je corresponds sans censure avec tous mes amis de Moscou. Et visiblement, ils n'ont pas peur. Et ils m'envoient des mails ou ils me parlent même au téléphone. Et qu'est-ce qu'ils m'ont raconté ? Ben, ce qui s'est passé entre Shoigu, qui était autrefois un allié, évidemment, de Poutine, et Poutine. Poutine lui a dit, mais tu sais, bon, j'ai besoin des Chinois parce que sans l'aide de la Chine, je ne fais pas le poids face aux États-Unis. Et Shoigu, il dit, oui, mais alors, moi, je suis, m'excuse, mais je suis mongol et je suis chez moi, au lac Baïkal, là-bas, dans la région. Et je ne te donne pas le droit de vendre le lac Baïkal ou ma région, enfin mon peuple, les Mongols en général, et aussi la Mongolie indépendante, à la Chine pour les opportunités. Alors, réponse que lui a faite Poutine, et ça circule dans Moscou partout, mais c'est juste provisoire, j'ai besoin de ce moment. Il dit, mais tu n'as pas à disposer de mon peuple et de mon territoire, voilà. Et ce jour-là que Shoigu a définitivement rompu avec Poutine, qu'il a essayé de le faire arrêter. Et puis maintenant, il est sorti de prison et il est de nouveau le grand patron des forces armées. Et c'est lui qui a les codes de la force de frappe. Donc quand il y a ces menaces nucléaires à la con et tout ça, c'est du bluff. Car sans Shoigu, il y a tout simplement deux codes aujourd'hui. Ça, c'est depuis la crise de Cuba. On ne laisse plus une seule personne avoir le bouton sur le nucléaire en Russie. Ça n'existe pas.
Il nous reste seulement 5 minutes. Les accusations qui, dans n'importe quel autre pays, seraient vécues comme gravissimes, de trahison, de renoncement à toute démocratie, enfin bon, tout ce qu'on entend aujourd'hui en Israël. Vous y croyez parce que oui, personne n'est à l'abri, ou vous considérez, comme j'ai dit en début d'entretien, que ça fait partie du folklore. C'est la littérature orientale, on parle comme ça.
C'est les deux. On est très honteux de l'image qu'on donne de nous-mêmes. On n'est pas déjà Poutine, c'est quand même pas, parce que c'est le fils Broverman qui était un homme remarquable. Déjà, c'est pas une gloire pour le peuple juif. Mais alors, la politique israélienne, encore moins heureusement, il y a Bibi, que je défends avec bec et ongle, avec mon ami Condoleezza Rice, qui le connaît depuis l'enfance, et qui est un homme très décent. Mais il y en a qui ne le sont pas du tout. Et je défends aussi beaucoup Benny Gantz, pour lequel j'ai non seulement beaucoup de respect, mais aussi d'affection. Parce que voilà un homme qui a fait tous les échelons de généraux de Tsahal et qui a toujours refusé de prendre un nom hébreu et garder la fierté de son nom. Il s'appelle Gantz, il est de Galicie et de sa famille, et il continue à porter ce nom yiddish allemand. Et moi, ça me touche énormément. Si je devais faire mon alias, je ne m'appellerais pas Necher. Comme l'aigle, je m'appellerai Adler, comme toujours. Et c'est exactement ce que fait Benny Gantz. Alors, parenthèse fermée, ce que je pense aussi de Benny Gantz, c'est que c'est un homme remarquable, un des grands généraux d'Israël, et que c'est une honte de l'injurier comme cela a été fait. Mais je suis persuadé que, comme disait déjà Talleyrand, que je vais baptiser juif d'honneur avec vous, ce qui est exagéré ne compte pas. Et toutes ces exagérations, le bon peuple israélien, le bon peuple juif, qui est quand même plein de bon sens et qui écoute ces imbécilités de la radio et de la classe politique, il a ses têtes, il a son idée. Alors nous sommes tous fiers des prosélytes, et en particulier des Éthiopiens. Et pour moi, l'image d'Israël, et c'est aussi le cas de Bibi, je sais qu'il partage ce sentiment, c'est Pnina Tamanoshata, c'est-à-dire une falacha, une éthiopienne, comme tous ces permissionnaires éthiopiens. Il y en a peut-être un peu plus qu'on prend en stop dans toutes les routes d'Israël, parce qu'aujourd'hui, Israël est aussi un pays noir, il est devenu, grâce d'ailleurs à la communauté juive américaine qui a absolument voulu que les falachas soient accueillis, et grâce à cela, eh bien, Israël est un grand peuple.
Eh bien, ce sera un très beau mot de conclusion, Alexandre Adler. Et je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et tout de suite, le journal de Pierre Gandus.